L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, en rediffusion à 18h. Aujourd'hui, c'est notre émission mensuelle proposée par le CIVAM du Finistère, réseau des paysannes et des paysans et de la ruralité. Aujourd'hui, on s'agite autour du bocage. Vous savez, ce système de champs, de prés qui sont clos par des talus, des haies, des arbres taillés en trogne. Il y en a de moins en moins, alors qu'on se rend compte maintenant des intérêts multiples de ce bocage. Nous allons y revenir dans cette émission. Alors que le CIVAM du Finistère vient de présenter le film Les Agités du Bocage de Thomas Izeb. Avec nous pour en discuter, il y a Gilles Jacob qui est paysan de Carlaz en poule pondeuse et en maraîchage et qui est membre du CIVAM. Et pour le CIVAM, c'est Isor Solet et Sophie Pathé qui sont là. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Véronique.
Quelle belle chorale. Est-ce que déjà vous pouvez nous raconter le film Les Agités du Bocage?
Alors,
Sophie ?
Oui, ce documentaire, on l'a diffusé dans le cadre de la semaine alimentation de la communauté de communes Presqu'île de Crozon, le Maritime. On était le dernier événement dans ce cadre-là. Et ce documentaire, il est proposé dans le cadre du festival alimentaire qui a lieu du 15 octobre au 30 novembre partout en France. On l'a sélectionné pour pouvoir... permettre la discussion autour de ces questions-là. Si on reprend le scénario de ce documentaire qui a été tourné en 2018-2019 et qui est sorti en 2021, il me semble, on est dans l'Avesnois, dans le nord de la France, et il subsiste un territoire encore très maillé, encore très bocager, avec beaucoup d'élevage encore. Sauf qu'ils font face au fur et à mesure en fait à l'agriculture industrielle qui prend sa place et des mobilisations en fait de citoyens, de parents d'élèves, de maires qui vont venir s'opposer à ces modèles-là.
Parce qu'ils sont près aussi de la frontière belge et des Pays-Bas, ce qui n'est pas anodin aussi dans l'histoire. Hein. C'est ça, ça
ouais,
compte.
Ouais, c'est ça, ça compte. Ah, bon, après, on est dans les Hauts-de-France, hein, donc... Les champs de céréales, de betteraves et de pommes de terre sont là depuis longtemps.
Oui, on sait le faire en France aussi. Hein.
Voilà, c'est ça. On n'est pas forcément obligé de rejeter toute la faute sur les Belges ou les Hollandais. Hein.
Non, mais là, il se trouve qu'il y a un paysan néerlandais qui arrive, c'est ça. Et que bah, c'est vraiment lui un représentant de cette agriculture-là intensive.
Oui, c'est ça qui fait sauter le bocage dans les champs qu'il récupère et aussi qui commence à mettre aussi un paquet de pesticides. Et c'est là où la population en fait, commence à se positionner, à faire des manifestations et des maires à prendre des arrêtés. C'était à l'époque, nous, on a entendu ça du côté de Rennes. Je ne sais plus si vous vous rappelez de la...
Bon. Non. Il y en a eu, Isor,
ouais. Oui, il y avait un maire, mais un maire au nord de Rennes qui avait essayé d'arrêter les pesticides, d'interdire les pesticides sur sa commune, effectivement, ouais.
Là, dans ce documentaire, il montre qu'effectivement, il y a eu tout un ensemble de maires, je ne sais plus, il y en a peut-être 5 ou 6, ouais. Qui se sont positionnés et qui ont mis en place des arrêtés municipaux contre les pesticides qui pouvaient être déversés sur leur commune. Et donc, ils ont été retoqués, comme en Bretagne, ils ont été retoqués par la préfecture, étant donné que c'est des décisions qui sont faites au niveau du ministère de l'Agriculture et pas au niveau local.
Bon, le festival alimentaire, j'en dis juste un petit mot, hein, puisque ça continue jusqu'à fin novembre, hein, c'est ça ?
C'est ça.
C'est quoi ? Ça consiste en quoi, en gros ?
C'est un festival qui est mis en place partout en France. Il y a tout un volet international, notamment avec des questions africaines, dont ça, je ne suis pas très au fait.
Et, il y a plusieurs documentaires, en fait.
Il y a plusieurs documentaires et il y a aussi toute une partie qui est sur l'alimentation, l'agriculture, l'écologie, avec des documentaires qui sont français ou internationaux. Et en fait, il y a des relais. En Finistère, c'est une association qui est basée à Quimper, l'espace associatif de Quimper,
le Cicodès, on connaît bien sur Radio Évasion,
qui est à l'espace associatif qui est antenne, et après du coup les associations adhèrent et on peut diffuser des films, passer des films, organiser des séances un petit peu où on veut, ciné-débat, ils nous orientent et ils nous ils nous aident à préparer ces débats.
Et alimentaire, c'est un jeu de mots, terre, ça s'écrit T-E-2-R-E. Donc voilà, il y a un site internet, bien sûr, on peut aller voir tout ça. À tel gru que vous avez donc présenté le film. Alors, Gilles, vous y étiez aussi, c'est ça, à la projection ?
Oui, oui, j'étais présent aussi.
Comment est-ce que ça a réagi ? Comment le public a réagi ?
C'était assez intéressant, il y avait plusieurs personnes, il y avait des gens de l'EPAB, donc qui eux...
EPAB, c'est l'établissement public de gestion de la bête d'Ornenay,
enfin... Ouais, du coup, voilà. Qui s'étale du cap de la Chèvre jusqu'au cap Cisin, et qui eux ont un gros programme de remise en forme des bocages et de remise en place, dont moi j'ai participé aussi depuis 2015, et avec lequel on continue encore de remettre des bocages chaque année. Il y a aussi la Chambre d'agriculture qui participe aussi, là c'est surtout le Finistère, à remettre aussi tout ce qui est des haies bocagères. Et donc moi j'invite tous les paysans à en tout cas aller se rapprocher de ces deux organismes pour pouvoir remettre des arbres dans toutes les parcelles où il en manque, même dans les trous, dans les... Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça fait partie d'une systémique pour moi l'arbre.
Ouais, mais alors vous êtes justement, vous êtes à la fois en maraîchage et en élevage de poules pondeuses. Comment ça vous sert concrètement le bocage ?
Du coup, moi, je trouve que c'est par rapport au... L'arbre, il a toute sa place dans les parcelles agricoles, peu importe ce qu'on fait pour protéger de l'érosion, que ce soit du vent, pour protéger aussi les animaux, mais aussi pour empêcher les sols de se lessiver de tous leurs minéraux, aussi pour... pour la beauté du paysage, pour préserver un terroir, mais quelque chose de culturel aussi, parce que les bocages ici en Bretagne, c'est culturel. On a encore beaucoup de chance d'avoir tous ces arbres. Je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on a beaucoup d'eau qui revient.
À Kerlas, ça ressemble à quoi votre exploitation ?
Nous, on est sur une vingtaine d'hectares. On fait 4 à 5 hectares de céréales par an pour l'autonomie des poules. Et puis, je suis sur 1000 m² de maraîchage et on avait aussi 60 moutons.
Ah oui, et vous aviez toujours des moutons,
non ? Oui, on a toujours des moutons.
Ah oui, et les poules ont à nouveau le droit d'être dehors, les poules pondeuses, là, parce qu'à côté de la pavière...
Il faut suivre les règlements, voir un peu tout ce qui se passe, mais moi concrètement, je les laisse dehors et elles restent en dehors.
Et elles sont protégées. Est-ce qu'elles aiment se mettre sous les arbres, les poules ? Parce que les moutons, oui, j'ai vu que les moutons se mettaient sous les arbres.
Concrètement, oui, les poules, c'est un animal qui, de base, vient plutôt de la forêt, quoi.
Ah oui ?
Oui, donc il se plaît vachement bien en milieu forestier. Et après, maintenant, il faut arriver à le protéger aussi, parce que les fuines, les belettes et tout ça, ça vit dans les arbres aussi. Donc il faut savoir bien les disposer, quoi.
Et sur leur parcelle aux poules, là, vous avez mis des arbres ou des...
Ouais. Enfin... Donc moi, du coup, c'est des parcellaires de 2 à 1 hectare entourés d'arbres. Et en centre, je suis sur du pré-verger de 10 mètres d'écart en pommes, poires, prunes.
Et les poules, elles ne font pas quand même dans le pré-verger ?
Si, elles sont dans les pré-vergers, oui.
Et ça, c'est intéressant aussi pour, je sais pas, pour les arbres, d'avoir des poules qui picorent.
Il ne faut pas que ce soit trop dense comme type d'élevage, parce que sinon, ça peut arracher les racines. Surtout au démarrage des arbres. Après, pour tout ce qui est des insectes qui peuvent ravager un peu les pommes, ça permet d'éliminer ça dans les vergers.
Uh-huh. Et les moutons, quel est leur...
Les moutons, c'est pour vraiment tout ce qui est... déjà, limiter les campagnols aussi dans les vergers.
Ah bon, comment ça marche ?
Le piétinement, ça les chasse. Et les campagnols sont assez friands des racines de pommiers. Et sinon, c'est pour aussi empêcher que du coup, mes haies s'agrandissent sur mes parcelles qui sont plutôt de la prairie. Donc ils mangent toutes les jeunes arbres qui réarrivent dans les prairies. Moi, je les limite sur des double haies. Et ils sont là pour pâturer, donc pour enrichir mes prairies. Et puis je garde 5 ans de prairies. Et puis après, je fais 3 ans de céréales derrière.
Ah oui, vous faites vraiment tourner. Et... le maraîchage, est-ce qu'il peut profiter du bocage et comment ?
Ah oui, oui, pour moi, si j'avais pas les haies, et c'est compliqué d'avoir en tout cas des légumes qui subissent pas le vent, surtout que moi je suis très très proche de la côte à Kerlaz. Et même pour les fruitiers aussi, quand il n'y a pas de haies en extérieur de parcelle, les fruitiers ils poussent pas aussi bien, ils donnent pas autant de fruits, il y a les fruits qui tombent aussi.
Donc les haies, là, c'est surtout pour le vent. En l'occurrence, que c'est intéressant pour vous.
Mais pour augmenter aussi la chaleur au sein des parcelles. Parce que ça permet vraiment aussi d'avoir des fruits. Là, moi, c'est la première année aussi que j'ai des kakis sur les parcelles. C'est aussi parce que j'ai un bocage qui est un peu plus dense qu'avant.
Et avec le changement climatique, est-ce que ça ne va pas devenir intéressant pour certaines productions maraîchères d'avoir de l'ombre ? Enfin, là, c'est...
Bah, c'est pas que de l'ombre, c'est aussi avec le prix de l'énergie qui flambe, pouvoir avoir du bois. L'arbre, il sert aussi de fourrage pour les animaux. Enfin, il y a aussi tout ce qui est manche d'outils. Enfin, il a énormément d'utilité. Ça dépend des essences aussi qu'on met. Il y a plein de fruits aussi qu'on peut mettre dans les styles, les noisetiers, les noix. Donc il faut juste s'intéresser de nouveau, je pense, à l'arbre, qu'on a un peu mis sur le côté et qu'on a vu comme plutôt un ennemi pour agrandir les parcelles, alors que pour moi, il va plutôt protéger et préserver la mise en place d'une préservation de nos sols et de la richesse de nos sols pour avoir une agriculture pérenne.
Donc comme vous avez beaucoup de parcelles entourées de haies, j'imagine que vous avez un petit tracteur, enfin vous n'avez pas des énormes machines.
Ben, je fais quand même appel à une entreprise de travaux agricoles qui à chaque fois est en lien avec moi. Une fois ils ont amené un gros tracteur pour pouvoir faire la moisson et je leur ai demandé par la suite de revenir avec un plus petit parce qu'on avait dû agrandir les parcelles pour qu'ils puissent rentrer faire la moisson. Et donc je pense que ça c'est aux OTA, aux CUMA et tout ça à s'adapter en fonction de la demande des clients, mais aussi à nous à avoir... La possibilité que ces machines puissent rentrer dans les terrains et du coup de réfléchir à la position des arbres qu'on met aussi et à l'écartement de ces arbres. Parce que dans tout ce qui est agroforestier, bah, souvent c'est des écarts de 10 mètres minimum à 12 mètres. Donc ça permet de faire aussi des céréales entre les parcelles.
Et vous sentez qu'ils s'adaptent quand même, les ETA, vous pensez qu'elles s'adaptent ?
Je pense que c'est une relation à avoir en tout cas et que c'est une discussion à avoir, mais que... Si, moi je trouve qu'ils sont, ça dépend avec qui on travaille, mais je trouve qu'ils sont très, très respectueux de pouvoir aussi participer à la vie des arbres.
Quoi. Il y a peut-être des ETA plus spécialisés aussi, petites exploitations, non ? Enfin,
Ça, je ne sais pas.
D'accord, on creusera. Et Isor et Sophie, pour les autres... Alors là Gilles Jacob, donc, il fait surtout des poules pondeuses et du maraîchage, mais pour d'autres types de production, qu'est-ce que le bocage peut apporter ? Est-ce qu'il y a des productions qui sont particulièrement intéressées par le bocage ? Sophie ?
Bah, Gilles en a parlé, a pas mal résumé en fait. C'est vrai que le bocage, ça ne va pas sans élevage. C'est quand même la base. Et dans le documentaire, c'est ce qu'on a vu aussi. Hein. C'est là où il y a des élevages en plein air en fait, qui ont besoin d'avoir des abris pour les animaux, de pouvoir créer des espaces aussi connectés aussi par rapport aussi au comportement des animaux, en fait, de pouvoir se cacher, c'est des choses importantes. En légumes, effectivement, avec le changement climatique, on fait souvent la pub des ombrières, de mettre des panneaux photovoltaïques, alors qu'en fait, on a les arbres qui peuvent très bien faire le job et qui apportent même plus qu'aujourd'hui juste des panneaux métalliques. Hein,
Qui sont sans doute un peu moins chers.
Certainement.
Mais aussi pour compléter, nous au CIVAM on a donné une formation d'hydrologie des sols qui je pense va encore perdurer pour les années à venir. Et du coup là, il nous explique clairement que, pour prendre un exemple concret, la zone qui a subi le plus de sécheresse l'année passée, c'était à Pontivy. C'est là où il y a eu le plus de grosses plaines céréalières. Et du coup,
en Bretagne en tout cas.
En Bretagne, ouais. Ouais, pour parler du cas concret de la Bretagne. Et du coup, ça participe au fait qu'il y ait moins d'arbres et donc qu'il y ait moins d'évapotranspiration des plantes, moins de prairies, moins d'arbres.
Ouais, parce que la mécanique, c'est quoi ? Voilà. C'est que à la fois, le bocage protège du vent, donc d'un certain dessèchement, mais il y a autre chose.
Mais il ramène aussi l'eau. Mmh. Et donc, du coup, nous, ici, on a quand même assez bien d'eau, mais au moins on aura d'arbres, au plus on va défavoriser cette revenue des nuages et tout ça, et donc d'avoir des plus grosses précipitations ou des incendies comme dans plein de régions de France.
Parce que les arbres, quand il y en a suffisamment, attirent les nuages, c'est ça enfin...
Ils créent de l'évapotranspiration, donc ils transpirent. Et le fait de transpirer, il y a de l'eau dans l'atmosphère qui ramène de la condensation et donc des nuages.
Et donc de la pluie. Nuages de pluie, quoi.
Et en plus, ils retiennent l'eau dans le sol aussi, non ? C'est ça, les racines. Ouais.
Donc ça participe aussi à améliorer la qualité de l'eau et la retenue des eaux. Parce que c'est pour ça qu'il y a une grosse... un gros lessivage de nos sols aussi, c'est parce qu'il n'y a plus, ces arbres pour retenir toutes les matières, mais aussi les eaux diluviennes comme on a des fois à la sortie de certains terrains qui sont en pente et qui en plus, s'ils ne sont pas cultivés dans le bon sens linéaire de la pente...
C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient parallèles à la rivière, c'est ça ? Enfin, il faut pas qu'ils...
Pour replanter une haie, en tout cas, ce qui est intéressant, s'il y a des gens qui ont envie de le faire, c'est de regarder les plans... cadastral et les plans avec les courbes de niveau, et en fait souvent les haies, naturellement, si on regarde les photos des années 50 sur Géoportail, elles suivaient les courbes de niveau parce qu'elles arrêtent en fait l'eau qui coule.
Elles restent le long de la pente, enfin toujours au même, à la même hauteur, c'est
ouais,
ça quoi.
C'est vraiment les courbes de niveau qu'elles suivent. Ouais. Et idéalement, si on voulait travailler les sols quand on retourne nos prairies et qu'on on travaille les sols pour bien faire, il faudrait suivre ces courbes de niveau. C'est pas toujours possible parce que les parcelles sont pas assez larges, mais idéalement, ça serait vraiment bien de suivre ça pour gagner en... à ce que l'eau soit retenue dans nos sols et pas aille directement aux rivières et donc à la mer.
Ouais.
Et aussi dans le travail que font de toutes nos dernières années, en fait, on a fait de l'arrachage d'arbres et aussi du curage au niveau des parcelles agricoles pour que l'eau, justement, soit évacuée le plus vite possible.
C'est quoi, c'est faire des fossés, le curage?
C'est faire des fossés, ouais. Et du coup, dans les fossés aussi, on peut améliorer la retenue d'eau en rajoutant des pierres à certains endroits et en ayant des haies proches aussi et de la prairie aussi qui soit permanente dans ces fossés. Ça permet vraiment que l'eau revienne et donc ne soit pas lessivée d'un coup.
Ouais, donc le lessivage, c'est quand l'eau passe très vite. Mais en plus, pourquoi on appelle ça le lessivage?
Parce qu'elle l'emporte tout ce qu'il y a sur son passage, donc toute la matière superficielle au sol, qui souvent est la matière organique qui va nourrir nos sols. C'est pour ça qu'aussi...
Elle emporte les vers de terre aussi avec elle, non? Quand même pas.
S'ils sont encore présents, oui.
Ouais, ah ouais.
Non, quand même non. Pas, non.
Non, mais sinon, les
c'est plus les minéraux. Nutriments. C'est pour ça que souvent, en agriculture conventionnelle, on va dire, ils nourrissent avec des nitrates directement pour que la plante absorbe sur la durée de vie de cette plante, quoi.
Donc s'il y a moins de lessivage, il n'y a pas besoin d'apporter d'engrais
Petit à petit, la matière organique minéraux, pourrait revenir. Alors, on a une autre formation aussi qui est tout ce qui est lithosphère. Et là, du coup, c'est très technique, mais pour vulgariser, c'est une choucroute. C'est une lactofermentation, en fait, de litière forestière. Donc, la strate en décomposition dans les feuilles, là où il y a les mycorhizes.
Donc, les mycorhizes, c'est les champignons,
c'est les petits
en fait,
filaments blancs qu'on voit quand on soulève des feuilles qui sont en décomposition dans la forêt. C'est cette strate-là qu'on va utiliser pour faire une lactofermentation avec du petit lait, du sucre et du son d'avoine. Et ça, on va faire maturer ça et on va répandre ça après sur nos sols au vaporisateur ou au goutte-à-goutte. Et moi, j'ai expérimenté ça dans ma serre sur des agrumes et l'année d'après, j'avais tous mes agrumes en fruits.
Ah, vous faites des agrumes à Kerlaz, voilà. C'est intéressant. Non, mais comme quoi, on peut faire bientôt des oranges et des citrons, quoi.
Ouais. Et pour parler encore de cette lithosphère, ce qui est intéressant, c'est que ça a été utilisé sur des parcelles qui n'avaient plus rien qui poussait, même plus de maïs. Il y avait à peine 5 herbes qui poussaient encore, mais qui n'étaient pas des herbes cultivées. Et au fur et à mesure qu'ils ont remis cette lithosphère tous les ans, petit à petit, il y a une vingtaine de plantes, puis une trentaine de plantes qui reviennent. Et donc, on restructure en fait les sols. Ouais. Et maintenant, ceux qui sont en train de s'intéresser à ça, c'est Bayer. Bayer, c'est ceux qui ont créé le Roundup.
Groupe pharmaceutique, voilà. Bien.
Du coup, une fois que ce sera interdit ça, ben, ce sera interdit ou que ça sera même plus possible de le fabriquer.
Le glyphosate? Ouais.
Voilà, parce que dans le futur, bon, ben, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus tout ça. Ouais. Et donc, à un moment, il faudra bien faire autrement, quoi. Et du coup, ben, voilà, ça, c'est le futur, ils s'intéressent à ça.
Mais là, vous l'apportez, donc toute cette matière, vous l'apportez vous-même, alors que s'il y a déjà les arbres sur place, au moins, vous n'avez pas besoin d'apporter les feuilles, quoi. C'est ça, en gros, l'intérêt.
Je pense quand même que ça a intérêt à faire les deux, parce que ça rapporte une information aux arbres. Parce que même en replantant des arbres dans des parcelles, donc moi, j'avais des parcelles où il n'y avait plus rien non plus en arbres, et en ramenant ce type d'informations, parce que c'est des informations de forêt.
Notamment les mycorhizes, les champignons.
Notamment ces
c'est
champignons
ça.
Et tout, qui ne sont plus du tout présents, ça recrée un espèce de maillage entre les arbres. Ouais. Parce que, bah, voilà, il y a eu des écrits qui disent que les arbres communiquent entre eux et tout ça. Voilà, les plantes, c'est du vivant.
S'il manque un élément, forcément, ça se passe moins bien.
Et du coup, les arbres ne posent pas toujours forcément bien sur certaines parcelles et on n'a pas toujours les explications. Et fois, je pense que c'est ce genre de choses-là qui peut améliorer les choses.
Et alors vous, à Kerlaz, qu'est-ce que vous avez mis comme essence? Comment vous avez fait votre bocage, refait votre bocage s'il y avait besoin de le refaire?
Ben, au tout départ, on a fait avec Braise Bocage. Donc eux, c'était par...
Alors c'est le plan Braise Bocage, juste pour préciser, c'est le plan financé, hein, donc, de qui c'est mené par qui? Par l'EPAB, c'est
par
ça?
Par l'EPAB, oui.
D'accord.
Qui est sur Kerlaz.
Par la région Bretagne.
Oui, d'accord, merci Sophie. Ouais.
Et du coup, eux, ils ont des plans où on replante 3 variétés d'arbres par haie. Et moi, après, j'ai recomblé en plus avec d'autres plants en bouturage pour améliorer encore la haie.
C'était après, quoi les variétés ouais, les
là, au
variétés.
Départ, j'ai fait Troen, Merisier, Noisetier. Après, j'ai fait... On a fait des tests aussi avec de l'arbouze, mais je ne sais plus toutes les variétés, parce qu'à chaque fois on changeait par haie pour essayer d'avoir une diversité. Mais en tout cas, ceux que j'ai constaté qui prenaient le mieux chez nous, c'était le sureau, le troène et le frêne. Il prend super bien aussi chez nous. Voilà, ça c'est les variétés qui ont beaucoup d'appétit dans nos sols. Après, là maintenant, on a fait aussi avec la chambre d'agriculture, et là on était plutôt sur 25 variétés d'arbres par haie. Et du coup, là, c'était vachement plus riche, mais c'est toutes des variétés locales.
Ouais, parce qu'avec le changement climatique, il y a peut-être des nouvelles variétés qui pourront aussi être intéressantes.
Ouais, mais c'est pas l'objectif de Brice Bocage ni de la chambre d'agriculture. C'est plutôt de remettre des variétés locales.
Ouais. Mais si les conditions changent, est-ce qu'elles vont pas avoir plus de mal à s'adapter ces variétés locales? Enfin, je sais pas.
On va essayer de préserver comme on peut aussi les variétés qu'on a. Après, je pense qu'il faut plus alors s'amuser à prendre des variétés fruitières plus exotiques pour soi, style le figuier qui prend quand même bien chez nous, ou des choses comme ça. Mais je ne ferai pas ça dans les... Je pense que c'est un peu un risque.
Ouais.
Dans les formations qu'on a eues l'année dernière aussi, ils disaient que certaines... Enfin, d'amener trop d'essence dite du sud, on va dire, pouvait accélérer le changement climatique aussi.
Ah bon ?
Parce que du coup, il va y avoir une adaptation aussi du climat à ces... Enfin, vu que tout communique, comme l'a dit Gilles, il va y avoir aussi ça. Donc, ça peut être intéressant de remonter certaines essences, de Bordeaux ou de choses comme ça, pour aussi limiter les ravageurs qui vont arriver et pour essayer de faire un contrôle des nouvelles maladies qui vont arriver du sud ou des choses comme ça. Mais en tout cas, passer tout de suite à une agriculture du sud de la France.
Pour mixer,
il faut faire attention à pas influencer le climat aussi.
D'accord, je pensais pas que ça allait si loin. Et comment vous les exploitez? Alors par exemple, votre sureau, est-ce que vous l'utilisez
j'ai des collègues qui sont en PAM, donc en plantes aromatiques et médicinales, et qui font des tisanes et plein de choses comme ça. Et du coup, tous les ans, elles viennent chez moi chercher des fleurs de sureau.
On peut faire de la bonne limonade aussi.
J'ai des collègues qui viennent chercher des coquelicots dans les champs et tout ça. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont prises au niveau des arbres.
Le frêne, par exemple, c'est un bois intéressant. Est-ce que vous l'utilisez?
Moi, je l'utilise pour faire mes manches d'outils. Mm-hmm. Donc là, du coup, il y en a certains que je trogne pour les utiliser.
Trogner, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire...
C'est pas tellement un terme du Finistère, un trogner.
C'est recouper les branches qui poussent tous les 2-3 ans. Et donc reprendre ces branches de section de 3 à 5 cm pour les utiliser. Donc du coup, ça va finir par faire une énorme boule. Il y a un tronc et puis au-dessus, il y a une boule. On voit souvent ça dans les fables de La Fontaine avec le sol, par exemple, au bord des rivières.
Et la trogne, c'était surtout pratiqué, je crois, en Ille-et-Vilaine, c'est ça
En Belgique, beaucoup aussi.
Ah oui. Oui.
En fait, il y en a partout en France, en fait. Et en Ille-et-Vilaine, c'était plutôt des ragosses, en fait, où on coupe toutes les branches latérales. Mais les arbres comme les trognes, c'est ce qu'on peut aussi appeler les arbres têtards. Oui. Donc on a le tronc et comme le dit Gilles, on a des branches en forme de boule qu'on va pouvoir exploiter plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on exploite tous les 5-6 ans?
Entre 3 et 6 ans, ça dépend des variétés. Mais en fait, en Bretagne, il y a aussi une bonne pratique des trognes à avant parce que les paysans n'étaient pas propriétaires des terres, mais du coup, ils pouvaient trogner les arbres et ça leur permettait d'avoir du bois de chauffe, fagots et tout ça.
Vous vous chauffez avec vos arbres?
En
pas
partie.
Trop. Ah ouais.
Si, en partie, mais c'est comme ils sont jeunes.
Oui.
Je peux.
C'est un peu tôt.
Je suis plutôt pour en mettre plus que pour le moment les utiliser. Ils n'ont pas du tout encore assez de taille que pour faire ça.
Et vous parlez de fourrage des animaux, c'est le cas?
Moi, j'en utilise pas parce que j'ai bien assez de prairies, mais dans des zones où ça peut être des terrains plus secs, ça peut être très intéressant. Et aussi, il y en a qui sont médicinalement intéressants aussi pour les animaux.
Ah ouais, ils peuvent se soigner en grignotant des écorces ou des trucs comme ça, c'est ça?
Plutôt du feuillage.
Ah ouais.
Mais écorce aussi. Et effectivement, des fois, sur les fins d'été, ça peut sauver pour des vaches taries ou des génisses, en fait, d'avoir de l'alimentation qui sont complémentaires à l'herbe et qui permettent de pas accélérer le cycle du pâturage, quoi.
Ah ouais.
Donc ça, on en a de plus en plus. Encore, j'étais voir un éleveur du côté de Quimperlé qui a, l'année dernière, utilisé les feuilles des arbres.
Ah ouais.
Dans son troupeau.
Bon, bah, je crois qu'on n'a pas encore épuisé le sujet, mais on arrive bientôt à la fin de l'émission. Le film, vous allez le représenter à nouveau, ces agités du bocage, vous avez prévu?
Non, il y a eu le Psychodesk qui l'a présenté mardi dernier. Et sur encore le département, il y en a d'autres. On sait qu'à Fouesnant, le 26 novembre, le dimanche 26 novembre, il va y avoir aussi les agités du bocage. Et après,
Et il y a d'autres films, sinon, moi j'ai recensé donc jusqu'au 30 novembre. Donc, de toute façon, le Festival Alimentaire proposera d'autres projections. Il y a Zone Urgente à transformer. Alors là, c'est à voir au BH Café à Brest mercredi prochain. Tu nourriras le monde, ça c'est le 13 novembre à Landerneau, le 14 novembre à Briec, et puis Du béton sur nos courgettes, le 15 novembre à Quimper. Puis vous pouvez aller sur le site internet, donc c'est alimentaire, donc terre-te-2-re.org. Merci. À
Merci.
Tous les trois.
Merci
le CIVAM qui reviendra le 30 novembre, justement, dans l'EM.